Voilà, nous sommes en direct de Cannes. Jean-Pierre Raffarin s'apprête à monter les marches. Il est décontracté, il est libre, il est complètement apaisé, il est sponsorisé par l'Exomil. On aperçoit à son bras une créature de rêve, c'est Laurence Parisot ou François Fillon, je ne sais pas. Ah non, on me souffle qu'il s'agit en fait de Michel Drucker. Voilà, c'est un véritable triomphe. Les flashs crépitent. Attention cependant que la forêt des Ray-Ban ne nous cache les arbres de la vie, comme dirait Orson Welles. Je rappelle que Jean-Pierre Raffarin est à Cannes pour son dernier film, Die Hard 5, où il incarne un Mickey d'accueil à Disneyland, qui décide de sauver les retraites. Film hors compétition, je le rappelle, où le regretté Mime Marceau, pour l'anecdote, avait été mis à contribution pour apprendre à Raffarin comment simuler un orgasme. C'était Rémi, en direct de Cannes pour France Inter. À vous les studios.
Chères auditrices, chers auditeurs, cher Daniel, petite devinette mignonne et innocente à l'attention de Monsieur Brice Hortefeux. Imaginez 8 nains entrant en file indienne dans une chapelle au beau milieu de la nuit. Ils s'avancent vers l'autel où brûle une bougie. Qu'est-ce qu'ils font ? Non, ils ne soufflent pas la bougie, c'est trop facile. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Bah c'est la bougie qu'ils font, bien sûr. Car je n'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est subtil, non ? Cette devinette racontée par Constantin, qui apprend le français depuis 5 ans. Il a de l'esprit, de l'humour, et tout ça dans une langue meilleure que celle de beaucoup de prétendus autochtones français. N'est-ce pas là, Monsieur Brice Hortefeux, une preuve d'appropriation de la culture dite d'accueil ? Pourquoi s'acharner à vouloir reconduire son père à la frontière et à le séparer de sa famille ? En effet, Vassil Christophe vit en France depuis 1999. Père de 2 enfants, Constantin, élève au collège Michelet à Saint-Ouen, et Romain, 2 ans, né à Saint-Denis. Il vient de Moldavie et craignant pour sa vie, il a demandé asile. Asile refusé. Il a donc reçu un arrêté de reconduite à la frontière le 6 décembre 2006. Ce vendredi dernier, le 14 septembre 2007, lors d'un contrôle routier, il a reçu un deuxième arrêté de reconduite à la frontière alors que le premier n'est même pas encore jugé. Auditrices et auditeurs, je vous invite donc à signer rapidement la pétition proposée en ligne sur le site du réseau d'éducation sans frontières. Dans la catégorie « Mobilisation dans le 93 ». Catégorie mobilisation 93, ou en appelant le collège Michelet au 01 40 10 08 87, 01 40 10 08 87. Merci pour eux.
Oui, bon, ben, c'est le PDB. J'exige un droit de réponse à Philippe Val que je viens d'entendre ce matin faire une chronique très emportée et affirmer péremptoirement que de toute façon au Liban, c'était le Hezbollah qui assassinait un à un les députés chrétiens. Là, je ne comprends pas très bien comment il peut affirmer cela, quelles sont ses preuves. Il méconnaît le Liban. Moi, je rappellerai juste que, normalement, à la fin du mois, étaient prévues les élections présidentielles qui doivent amener au pouvoir un président qui est toujours chrétien maronite. Et qu'il y a certainement une guerre entre les différents clans, dont je rappellerai les noms, il y a les Gemayel, les Jumblat, peut-être j'ai dit une bêtise là, pardon, mais il y a des guerres de clans entre les différents chefs de partis chrétiens pour avoir ce pouvoir. Donc la situation est beaucoup plus compliquée. Affirmer que ce soit comme ça le Hezbollah qui liquide un à un, c'est une connerie. On peut très bien penser que ça peut être les services secrets syriens, israéliens, pourquoi pas certains autres outre Moyen-Orient, ça peut être les chrétiens entre eux, c'est très très compliqué. Et l'histoire du Liban, il faut pas l'oublier, c'est un pays qui a des reliefs, qui a des vallées, c'est très clanique. D'en arriver à dire voilà le Liban, le problème c'est l'Hezbollah, c'est une honte. Philippe Val me déçoit beaucoup. Voilà, c'était une réponse un peu énervée et embrouillée du PDB, mais j'espère que ce droit de réponse passera.
Est-ce qu'en 14-18, en 39-45, la France avait demandé à ses ressortissants d'Afrique, de Madagascar, de d'Asie, de savoir parler français pour combattre les Allemands ? Eh ben, je pense pas, hein. Oui, et en matière à réflexion. Et autre chose, j'ai entendu hier que c'est la France qui livre de l'uranium enrichi pour l'Iran. J'aimerais bien que vous remettiez ce coup de téléphone d'un auditeur. Merci, à bientôt. Et continue comme ça, c'est très bien. Au revoir.
Bonjour, Stéphanie, institutrice à Conches dans l'Eure. Voici un petit problème arithmétique à l'usage des auditeurs de là-bas si j'y suis. Le niveau est fin CM1 ou CM2 à cause des grands nombres. Question numéro 1. Sachant que le déficit budgétaire de la France se monte à 42 milliards d'euros et sachant par ailleurs que le coût des premières mesures de Sarkozy est estimé à 15 milliards et que la fraude fiscale est estimée au plus bas à 35 milliards, calculez le crédit de la France si les premières mesures de Sarkozy étaient supprimées et que la fraude fiscale était réduite de 35 milliards d'euros. Réponse, le crédit de l'État français se monterait à 8 milliards d'euros. Question numéro 2. Sachant qu'une réduction d'effectifs de fonctionnaires statutaires est évaluée à 1 milliard d'euros pour 30 000 postes, calculez le nombre de postes que l'État pourrait ainsi créer avec ce crédit. Réponse, l'État français pourrait créer 240 000 postes de fonctionnaires supplémentaires. Question numéro 3. Sachant que notre président connaît ses chiffres et est capable de comprendre ses raisonnements, et qu'il nous dit par ailleurs que nous devons nous serrer la ceinture, peut-on affirmer avec certitude que c'est un menteur ? Réponse, oui, nous pouvons affirmer avec certitude que c'est un menteur. Alors, les sources pour le déficit budgétaire, c'est le Canard enchaîné du 10 septembre. Pour les premières mesures de Sarkozy du bouclier fiscal à la détaxation des heures supplémentaires, ainsi que pour les 30 000 postes de fonctionnaires, c'est dans l'Institut de l'entreprise, le site. Et pour le montant de la fraude fiscale, c'est aussi le site web du Syndicat National Unifié des Impôts. C'était Stéphanie de Conches dans l'Eure.
Et voilà, ça sonne chez Stéphanie à Conches dans l'Eure, le clocher. Mais c'est bien ça, c'est DRG, les renseignements généreux, ça marche. On a de plus en plus de messages qui nous arrivent dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37 et qui sont des renseignements généreux, les RG de la base si j'y suis, c'est-à-dire, ben vous avez compris, des messages qui sont bien circonstanciés, bien recoupés, bien sourcés, et qui sont d'autant plus précieux et généreux. Donc merci, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Aujourd'hui, on va découvrir quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous apaiser, qui va nous rassurer. Ce n'est pas vrai que l'immigration ne pose que des problèmes. Ce n'est pas vrai que des immigrés qui ne parlent pas français sont refusés, refoulés. En France, c'est faux. La France est une terre d'asile. La France est une terre d'accueil. La France sait recevoir. Il n'y a pas que des problèmes de ségrégation, de rejet, de xénophobie et d'exclusion. C'est ce qu'on va vous prouver d'ici à 16h avec Renaud Lambert. Ils nous envahissent. Qui donc ?
Voilà, c'est pour dire que le repère des amis de là-bas, si j'y suis, de Tonquédec, va rouvrir ses portes. L'endroit vient de rouvrir sous le joli nom évocateur du temps des cerises. Les repères vont pouvoir reprendre, sauf que l'on change de jour, on passe du jeudi au mercredi et la première réunion se tiendra le 26 septembre au temps des cerises ex-café de Bretagne, route de Bullien, 2240 Tonquédec. Voilà, allez, amitié à tous et on continue la lutte. Salut.
Vous savez quoi, j'ai un renseignement généreux à vous transmettre. Vous savez quoi, les roses qui fleurissent en ce moment à l'automne là, elles sentent hyper bon, hyper bon. Elles sont moins grosses, mais alors elles ont un parfum, un régal.
Les Anglais, ils envahissent.
The invaders. Their purpose, to make it their world.
Je me présente, David Shepherd. Nous habitons en France depuis 98. Je travaille pour le gouvernement à Londres.
Il y en a plein ici. À côté, c'est des Anglais, il y a plein de magasins anglais. Le cybercafé est anglais,
Il y a des Anglais partout.
Nous avons perdu l'Aquitaine et maintenant nous achetons.
C'est ça.
Payback.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. Les Anglais ne sont pas des Arabes comme les autres.
Flight number 2, arriving from...
C'est quoi comme voiture que vous avez, monsieur?
Hello.
C'est quoi comme voiture que vous avez? Vous parlez français?
English.
Ah. What kind of car is it?
Ferrari.
Vous pouvez la faire rum rum. C'était quoi comme voiture, vous savez, vous?
Ferrari, deux Ferrari. Pièce, ça c'est 4000 euros. Pièce. La rouge, c'est une Tessarossa, la rouge. Après l'autre, je sais pas.
Il y avait une rouge et une noire.
Ouais.
La noire était encore plus grosse que la rouge. Hein.
Oui. Mais elle est plus récente, la noire.
Vous travaillez au restaurant, à la pizzeria, oui, c'est ça? Oui. Les Anglais qui sont dans le coin, ils ont de l'argent, hein?
Un peu. Moi, je suis de la Côte d'Azur, en fait. De Toulon, exactement. Et il n'y a pas autant d'Anglais que ça, quoi.
Et vous pensez que dans 100 ans, ici, la langue officielle, ça sera l'anglais?
Peut-être pas officielle, mais il faudra parler les deux. Ça, c'est obligatoire.
Mais c'est marrant, parce que quand même, les Français sont fiers de leur langue. On sait qu'il y a une bisbille avec les Anglais, quoi. Et on nous parle jamais du danger que ça représente, quoi.
Mais oui, il faut l'effort quand même de parler français. Ils essayent. C'est un peu dur pour eux, comme pour nous, quoi, de toute façon. Mais ouais, ils essayent de parler français.
Le gars à la Ferrari, là, il parlait pas beaucoup français.
Ici, c'est chaud.
Bon, alors, les gens qui viennent s'installer dans un pays, d'une façon ou d'une autre, en général, on appelle ça des immigrés, quoi. Les Anglais, c'est des immigrés ici ou pas?
Oui. Oui, sauf qu'ils amènent leur argent, mais c'est des immigrés aussi, pareil. Le problème, on les entend moins.
Ouais, c'est ça.
Il y a moins de problèmes. Et ils retapent ils ramènent de l'argent quand même. Ben, t'as ça, ils lisent tous les mêmes. Bon, ils ont les bouquins, les journaux. Bon, ils ont tout... Ici, ils ont tout comme d'Angleterre, hein, tous les journaux anglais et tout ça, ils ont tout.
C'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ils s'intègrent, c'est vachement bien. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'on fait quand même pas mal d'efforts pour les Anglais, qu'on fait pas forcément pour d'autres populations. Par exemple, Sud-Ouest, le journal du coin, fait tous les mois plusieurs pages en anglais. À Paris, le Parisien fait pas des pages en arabe, en turc, en polonais.
Non, mais ils ont quand même leur journaux, les Arabes. Ils ont leur cassette vidéo. Ils ont leur DVD. Ils ont leur musique, leur boutique.
Ouais. Et à Toulon, c'est quoi comme genre d'immigré qu'il y a?
Marocain.
Et ça se passe pas aussi bien?
Ah, quand même pas.
Et pourquoi alors?
Je sais pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer et. Ouais, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Moi, je vois à Toulon, on ne peut pas sortir. Moi, je ne laisse pas mes enfants dehors. Ici, on peut laisser ses enfants traîner. Il y a beaucoup moins de problèmes. Ils ne sont pas agressifs, ils sont souriants. Même si vous connaissez ou vous ne connaissez pas, ils disent toujours bonjour. Ils vous croisent, ils disent bonjour. C'est systématique. Chose que ça aide vachement pour le contact des gens, après.
Non, non, non. It's not possible.
Bonjour, chef. Vous allez bien? J'ai une jolie fille à côté de moi. Le temps fait beau. On a bien mangé, bien bu. Tout va bien.
Combien sont-ils ces Anglais à avoir choisi de vivre en France? Bon, je ne sais pas exactement, on va vous dire la vérité. 200 000, 400 000, 500 000, on ne sait pas exactement. Heureusement que... Avec l'amendement 69, le fameux amendement 69 sur l'ADN qui a été adopté dans la nuit de jeudi, a été adopté aussi quelque chose de très important, la levée de l'interdiction du recensement des origines raciales ou ethniques pour la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration. Ah, donc ça va nous permettre, cette levée de l'interdiction, de savoir combien d'Anglais vivent en France, se sont installés en France, origine raciale, et ben pourquoi pas, si on va sur les origines raciales, et ben les Anglais c'est une race, comme moi j'en suis une, comme n'importe qui relève de la race, aux yeux des ratios ou de ceux qui ont une vision raciale du monde. Donc, précision à nous donner. Et puis, ethnique aussi, oui, bien sûr, être anglais, c'est appartenir à une ethnie. Donc, grâce à cette levée de l'interdiction, nous saurons combien d'Anglais ont choisi de vivre parmi nous et y vivent bien et aspirent à y vivre. Selon un sondage ICM d'octobre 2006, donc assez récent, 22% de nos amis anglais rêvent de vivre en France et seulement 23% souhaitent continuer de vivre en Angleterre. Ça fait, vous voyez, plus de 75% d'Anglais qui rêvent d'aller ailleurs. Alors que c'est Angleterre depuis des années, nous on ne comprend plus rien parce que ça nous est présenté grâce au blairisme, grâce à ce libéralisme dynamique comme une sorte de paradis. D'ailleurs, où pas mal de Français vont essayer de travailler, et certains avec succès. Eh bien voilà. Donc, vous le savez bien, des Anglais nombreux s'installent chez nous, notamment là, on va faire un tour en Dordogne. Maintenant, on dit Dordogneshire, c'est-à-dire comme un comté, comme une région anglaise où ils sont très nombreux. Et on va, avec Renaud, eh bien, découvrir ce monde des Anglais qui ont apporté évidemment avec eux pas mal de biens, puisque c'est plutôt des gens aisés qui s'installent, classe moyenne supérieure, et qui amènent eh bien, dans ces régions la prospérité. Et tout ça se passe très bien. Alors, les problèmes des uns ne sont pas les problèmes des autres, visiblement. Les Anglais ne sont pas des Arabes, tout à fait comme les autres.
Les Anglais, moi, j'en pisse au cul.
Il n'y a pas de racisme chez nous. J'aime les Anglais. I love you. C'est bien anglais.
L'anglais est appelé ainsi à cause de ses traits anguleux. C'est pourquoi les Anglais sont tous des angulés. Tandis que le français, lui, est un ongulé comme le cochon. Alors que le cochon et le français sont omnivores, l'anglais mange du gigot à la menthe, du bœuf à la menthe, du thé à la menthe, voire de la menthe à la menthe. Non content de faire bouillir les viandes rouges, l'anglais fait cuire les viandes blanches comme Jeanne d'Arc, qui mourut dans la Seine maritime et dans les flammes en lançant vers Dieu ce cri d'amour « mon Dieu, baisse un peu le chauffage ». Les deux caractéristiques de l'anglais sont l'humour et le gazon. Sans humour et sans gazon, l'anglais s'étiole et se fane et devient creux comme un concerto de Schoenberg. L'anglais tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. Comment reconnaître l'humour anglais de l'humour français? Eh bien, l'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde, alors que l'humour français se moque de ma belle-mère.
All the mushrooms are about to arrive.
Bonjour.
Vous vivez dans la région, là, messieurs?
Oui, en retraite. Moi, depuis 11 ans, et mon ami John...
Presque 13 ans maintenant.
Nous nous appelons tous les deux John. C'est facile.
Vous faisiez quoi dans la vie, tous les deux?
J'ai travaillé avec une grande société multinationale, américaine. Et John aussi, John a été...
J'ai travaillé à mon compte. J'étais un expert de négociation.
Ah oui.
Autour du monde.
En France, on nous a dit récemment, au moment des élections, que le modèle politique à suivre, c'était le modèle anglo-saxon. Mais pourquoi est-ce que si le modèle, c'est la Grande-Bretagne, est-ce que les Anglais viennent en France?
Et du lait. Du lait frais.
On a besoin en France un peu de satire, je pense. Parce que... Je pense que les syndicats sont un peu trop puissants. Mais je pense que Sarkozy, j'aime beaucoup. Il a les bonnes idées, je pense. Non?
Mais pourquoi les Anglais, ils viennent ici, les Britanniques?
La vie est encore moins chère.
Oui. Oui? Tu penses? Les impôts sont moins qu'en Angleterre.
je paye mes impôts en France, un grand avantage. Et la vie, c'est parfait. Je suis un vieux maintenant, Amy. C'était une tragédie hier soir.
Oh, oui.
Pour l'équipe de la France. Oh, là, là. Parce que l'équipe de la France, c'est mon équipe maintenant. Et contre les Argentines. Oh,
j'ai entendu dire que la France a perdu à cause de l'arbitre anglais.
Non, il n'est pas anglais. Il était irlandais.
Ils ont toujours les excuses, les Français, n'est-ce pas?
Ah oui, oui. Ça, c'est... Ah, c'est bon, ça. C'est bon.
Ok, très bien. Allez, prends-les avec qui? En but.
Ici, en France, on a eu des élections très récemment. Et dans les propositions des grands partis,
oui.
Tous deux nous disaient « Il faut faire en France ce qu'on a fait en Angleterre ». Alors, si le modèle est anglais, pourquoi est-ce que les Anglais viennent en France ?
Non, non, non. Non, actuellement, non, ça, c'est pas la raison. Les Anglais arrivent en France. C'est pas politique. C'est la vie. C'est calme, c'est tranquille. Il y a moins des immigrants, etc.
Une des raisons, c'est qu'il y a moins d'immigrés ici, c'est ça, qu'en Angleterre?
Oui, oui, il y a beaucoup d'immigrés en Angleterre.
Et ça pose problème?
Oui, 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 oui. C'est ça, ça c'est la raison. Aussi, vous avez le soleil ici.
Alors, il faut dire que là, le soleil...
Oui, le soleil, la vie, le repas, etc.
The invaders. The invaders. Their purpose, to make it their world.
Charmant, charmant, souriant, sympathique, mais ils nous envahissent. Et oui, charmants envahisseurs que ces Anglais, de plus en plus nombreux, qui sont parmi nous, notamment dans cette région, mais pas seulement, ils sont un peu partout. Ils sont partout bientôt, ces Anglais, et tout se passe bien. Ça, c'est terrible, c'est terrifiant, il se passe bien. Et par exemple, l'intégration de ces Anglais se fait tout à fait très bien. Là, on est à Sainte-Foy-la-Grande, c'est la semaine de l'amitié franco-britannique. On a rencontré ces deux Anglais retraités installés en France, John et John. C'est la parfaite, on est dans l'humour anglais, on est dans la bande dessinée, c'est parfait, c'est Dupont et Dupont, John et John, qui trouvent qu'il faudrait un petit peu plus de Thatcher en France, mais enfin, c'est dit comme ça, très gentiment, au-dessus d'une tasse de thé, que Sarkozy est parfait, etc. Ils sont heureux, ces Anglais, nos Anglais, nos amis Anglais, puisque maintenant, l'équipe de France de rugby, c'est leur équipe à eux, ils nous adoptent et ils nous envahissent. Alors, ça, évidemment, l'intégration se fait bien dans ces conditions, hein, quand on organise des semaines de l'amitié franco-britannique. Il y a beaucoup moins de semaines de l'amitié franco-malienne, ou alors si, dans des cadres culturels bien particuliers, bien limités et bien suspectés par certains. Voilà, deux poids, deux mesures, et pourquoi donc ?
Je parle français un petit peu. Un petit peu.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans la région?
J'ai secrétaire bilingue.
Ah d'accord. Vous avez une secrétaire bilingue.
Ouais.
D'accord. How long have you been in the region? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la région?
9 ans.
9 ans.
9 ans.
9 ans.
9 ans. Mais
faut parler plus français, hein.
Ouais, mais c'est très difficile.
Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant?
I was in insurance. That's insurance and finance.
Donc j'étais dans l'assurance et la finance. Alors, ici en France, on nous dit le modèle à suivre, c'est le modèle anglo-saxon. Il faut faire comme on a fait en Angleterre.
Well, the reason that English people come to France is because they are interested in the style and the quality of life.
La raison pour laquelle les Anglais viennent en France, c'est parce qu'ils s'intéressent au style et à la qualité de vie.
The reason why why it might be necessary for France to follow the British model.
La raison pour laquelle il serait nécessaire que la France suive le modèle britannique
is economical. It's the economy.
C'est plus économique.
It's very difficult to employ people.
Ici, c'est très difficile d'employer des gens.
It's very expensive.
Et ça coûte très cher.
Oui. It's also very difficult to be in business here.
C'est aussi très difficile de faire du business ici.
There are far too many restrictions.
Il y a beaucoup trop de restrictions.
Oui. Mm. And Sarkozy is moving in the right direction.
Et Sarkozy met le pays sur la bonne voie. En France, on a beaucoup parlé de problèmes liés à l'immigration. Est-ce qu'on s'est déjà référé à vous comme un immigré? Est-ce que vous avez ressenti ça?
I have never been made to feel that I was not wanted in France.
On ne m'a jamais fait sentir que j'étais pas, qu'on ne voulait pas de moi ici.
I have been made to feel that we can make a contribution.
On m'a bien fait comprendre que nous, on pouvait apporter notre pierre.
Sometimes it's capital. We bring capital in. Sometimes it's tourism. But we contribute to the economy of the location.
Parfois c'est du capital que nous apportons ici, parfois sous la forme de tourisme, mais nous contribuons à l'économie. Mm. Which is not the case of all types of immigration, qui n'est pas le cas de tous les types d'immigration.
Exactly. I think we contribute rather than take.
Nous contribuons plutôt que de prendre.
Voilà, il y a ceux qui contribuent et ceux qui prennent. Donc deux types d'immigration différentes. Et là, il n'y a pas de xénophobie, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de rejet. Bien évidemment, on n'est pas raciste avec les riches. Eh oui, bien évidemment, ça restait quand même à démontrer. Et par exemple, fera-t-on des tests ADN en cas de regroupement familial avec nos voisins britanniques? Hey, pourquoi pas si cet amendement est appliqué au-delà de l'intention évidente de draguer les voix du Front National pour les municipales de 2008, ce sera assez curieux. Et va-t-on imposer à nos amis anglais l'apprentissage du français? S'il serait temps, parce que depuis des années que ces Anglais résident en France, on constate que leurs progrès sont tout à fait limités, ce qui ne gêne personne. La preuve, Bruno parle parfaitement anglais et on se comprend parfaitement. Mais enfin, tout ça quand même mérite quelques précisions, quelques éclairages. Et on va retrouver Gérard Noiriel, qui est historien. Vous vous souvenez, on l'avait rencontré au mois de mai ou juin sur un certain ministère de l'intégration. Il avait fait des commentaires qui vous avaient intéressé. Donc là, quel est son point de vue sur ces immigrations décidément différentes?
Dans les personnes que vous avez interrogées, on voit très bien qu'il y a deux types d'interprétations hein, qui s'affrontent. Et elles peuvent d'ailleurs être parfois véhiculées par les mêmes personnes contradictoirement. Une lecture, j'allais dire, sociale, celle dont je viens de parler, puis une lecture, effectivement, culturelle. Bon, moi, j'ai pas eu le sentiment que les Anglais que vous avez interrogés étaient des parfaits francophones. Je dois dire que leur français, je ne sais pas si satisferait Monsieur Brice-Hortefeux, puisque maintenant, pour venir en France, il faut faire d'abord un examen linguistique, et je ne sais pas si on va l'imposer à ces personnes-là. Mais je pense, quand vous avez d'argent, évidemment, les choses se posent tout à fait autrement. Donc ça, vous voyez, c'est intéressant, mais c'est pas nouveau, hein. Moi, j'ai travaillé en tant qu'historien sur ces phénomènes-là pour l'entre-deux-guerres. Vous avez une communauté américaine en France, essentiellement à Paris, qui avoisinait les 20 000 personnes. Eh bien, la police ne considérait pas que cette communauté-là posait problème. Les Italiens, les Polonais, les Arméniens, les Juifs polonais, oui, là, on disait, il y a problème, ces gens-là ne s'assimilent pas. Mais pas les riches. Et pourtant, c'est parmi ces communautés les plus aisées qu'on a le moins de naturalisation, voyez, qu'on a le moins de signes objectifs d'intégration. Parce que l'une des particularités des immigrés riches, je vais dire, c'est qu'ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur pays. Pour les Américains, par exemple, c'était déchoir que de demander la nationalité française. Fiers d'être français, eux, non. Donc, si vous voulez, voyez comment le critère social s'insinue constamment dans ces questions-là. Et c'est là l'une des forces, je dirais, du discours ambiant. la fabrication des stéréotypes, c'est d'occulter la dimension sociale pour fabriquer une sorte de personnage qu'on appelle l'immigré, qui est réduit à une seule composante de son identité, l'origine. Hein, et dès qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ce n'est pas le critère juridique qui l'emporte, mais d'autres critères nourris aussi, peut-être, des images que les gens ont dans la tête parce qu'ils ont regardé les actualités télévisées la veille avec les intégristes, avec les communautaristes, avec tout ça. Enfin, vous voyez, c'est ça, ça imprègne profondément jusque dans l'inconscient des personnes, quoi. Et je dirais, ces stéréotypes, ils sont véhiculés par des gens de différents milieux. On le voit bien d'ailleurs dans votre reportage. C'est pas forcément voué à une catégorie sociale. C'est quelque chose qui transcende les milieux.
Il y avait 500 ans, il y avait beaucoup des Anglais ici. Et nous avons perdu l'Aquitaine. Et maintenant, nous achetons.
Payback.
Vous pouvez me remettre un pastis, s'il vous plaît ? Ouais, je suis venu ici parce que j'ai vu que c'était un PMU et dans tous les autres bars où je suis passé, ça parlait anglais partout. Je me suis dit, ici, je vais trouver des Français. Il y a beaucoup de...
Quelques Français. Bon, ils sont partout. La région est partagée entre les Hollandais et les Anglais. Les Hollandais sont plus vers Sarlat. Et ici, on a plus d'Anglais.
Mais là, cette rue, là, c'est de la folie. J'ai vu les agences immobilières, c'est écrit en français et en anglais. Internet rue,
c'est tout le village. C'est à 80% anglais.
Comment il s'appelle le village ici ?
Eymé. Mais les autres villages en sont jaloux. Parce qu'ils ont développé le village. Moi, j'ai connu... je suis arrivé ici en 62. Ils ont développé le village par leur présence. Bon, ils ont fait monter l'immobilier, c'est sûr. Mais les autres villages, par exemple, Font-Roch ou autres villages autour, Lausanne, en sont jaloux. C'est sûr.
Je ne sais pas si vous savez, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec un titre un peu provocateur, c'était « Au secours, les Anglais nous envahissent
». Moi, je le vis, moi.
Ouais, mais c'est ça, ils étaient déjà venus, ils ont essayé de conquérir, et puis ils reviennent, non ?
Charles Martel, en 732, on a arrêté certains. Depuis, ils sont montés vachement plus haut. Hein ? Et puis les Anglais, ils sont catholiques, par contre.
Les Anglais, c'est des immigrés ou pas ?
Non, c'est les gens qui investissent dans le pays, qui ramènent leur argent dans le pays et qui développent.
Et les Algériens, Marocains, Tunisiens, tout ça, comment ils se placent là-dedans alors ?
Il n'y en a pas ici. Il y en a un. Bernard, qui s'appelle. Non, mais c'est vrai.
Oui.
J'arrive pas à manger les merguez, même aux fêtes et tout ça.
Ça passe pas.
Non. Le canard. Personnellement, hein. Mais faut pas se tromper. Il faut pas les mélanger avec les Arabes, les Anglais.
C'est pas pareil.
Non. La plupart sont assez...
Vous faites un geste de la main, là, qui veut dire quoi ?
Assez haut placé. Financièrement. Michel, je vais en prendre un baby, avec le même glaçon.
The invaders. The invaders.
Alors, vous avez un phénomène général hein, qui concerne, je dirais, tous les êtres humains. C'est-à-dire, les gens ont toujours besoin de se justifier, de défendre leur dignité par rapport aux autres.
Oui, c'est pas difficile d'entrer dans un bistrot avec un micro et de ramasser des propos racistes, ça se fait beaucoup. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la définition du mot immigré. Immigré, ça veut dire pauvres. Parce que si l'on songe à l'immigration iranienne, par exemple, de la fin des années 70, est-ce qu'on parle des Iraniens immigrés ? Non, c'est les Iraniens qui ont fui la dictature. Si on songe aux grandes belles propriétés, grands appartements d'avenue Foch ou de Neuilly qui appartiennent à de riches saoudiens, on ne pense pas à une immigration arabe, évidemment. On voit là, à nouveau, le sens des mots, ce qu'il y a derrière les mots, et il y a des gens qui passent leur vie entière à démasquer ce qu'il y a derrière les mots, et c'est le travail de Gérard Noiriel.
Donc, une partie des classes populaires a été sensible à la question de la fierté nationale, de ces critères de nationalité, parce qu'elle permet d'établir des distinctions, et finalement, des gens qui, dans leur vie quotidienne, sont souvent méprisés, sont souvent humiliés, eh bien, au moins, ils ont un critère qui est légitime, publiquement, c'est de se dire, nous sommes français, nous sommes meilleurs que les autres, etc., etc. Alors, ça fait partie, disons, des préjugés qui existent depuis toujours, quelle que soit l'époque, on rencontre ça, contre lesquels, normalement, des citoyens sont républicains, qui militent pour un progrès, etc., tous les démocrates, normalement, devraient lutter contre ces préjugés. Or, on constate qu'aujourd'hui, depuis un nombre d'années déjà, eh bien, on a une tendance à l'inverse, on dit qu'il faut les comprendre, finalement, eh bien, faut écouter ce que le peuple nous dit, enfin, vous voyez, tous ces vieux arguments qui, à une certaine époque, étaient réservés à l'extrême droite, racisme anti-français, etc., et qui, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, avec toute une série d'argumentations du type faut pas diaboliser, vous voyez, donc, on nous fabrique un discours qui vise à légitimer ces comportements, ces propos. Et moi, j'établis une grande différence entre ceux qui vont tenir ces propos du café du commerce, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui n'engagent qu'eux, au fond. Bon, si un journaliste va leur tendre le micro, bon, c'est aussi la responsabilité du journaliste, il va tendre son micro. Mais ces gens-là n'ont pas le pouvoir, par eux-mêmes, de parler en public. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas des propos dont ils ont la responsabilité entière, puisqu'ils n'ont pas de fonction publique. Moi, j'établis donc une différence, c'est pas pour minimiser, mais il y a une différence, qui est une différence de position dans la société. Différence entre ces personnes qui parlent comme ça, en évoquant des préjugés sur les immigrés, et ceux qui ont un pouvoir, quelque part, qui sont des représentants, qui engagent l'État, qui engagent donc la République, etc., et qui, eux, vont s'appuyer là-dessus pour fabriquer des discours sur l'identité nationale, sur l'immigration, les clandestins, etc., qui alimentent et qui légitiment, voyez, ces préjugés. Il y a une différence de nature, et je pense qu'on ne peut pas, d'un côté, dire « je suis un homme politique responsable », et d'un autre côté, aller dans ce sens-là, alors même que nous avons une multitude aujourd'hui, enfin, de travaux, d'éléments objectifs qui prouvent l'inanité de ce discours global sur l'immigration.
Alors là, on se trouve où là ?
Dans un restaurant,
Shish kebab.
Sliman City.
D'accord. Alors, on est dans une région de France,
ouais,
où il y a pas mal d'anglais.
Ouais.
Mais on parle jamais de l'immigration des anglais. D'ailleurs, quand je demande aux gens, est-ce que les Anglais qui viennent s'installer ici sont des immigrés ? Non, bien sûr que non. Comment ça se fait, ça ?
Ben, comment ça se fait, étant donné que les Anglais, ils sont européens, ils ont un peau blanc, même qu'ils font une connerie. Et les gens ne l'embarquent pas. Étant donné que nous, le moindre de sauge, c'est les Arabes, c'est là.
L'immigration anglaise, ils arrivent avec les livres sterling, c'est une bonne monnaie, donc il n'y a pas de problème. Donc,
il y a un peu de
ça,
quoi.
La base, c'est l'argent. Ah. Dans tout le monde, dans le monde entier, tout tourne sur l'argent.
En fait, ce que vous dites, ouais, c'est qu'un immigré, c'est un immigré uniquement s'il n'a pas d'argent. Sinon,
pas d'argent et pas de papier. Voilà, pour eux, c'est un immigré. Ah,
S'il a de l'argent,
même s'il ne sait pas parler, même s'il ne s'intègre pas, tant que son argent est bien intégré, il n'y a pas de problème.
C'est ça, en fait, c'est l'argent qui doit s'intégrer.
Voilà.
Parce qu'en France, on a fait une loi pour protéger la France contre le foulard, des choses comme ça, mais on imagine mal qu'ils nous fassent une loi pour protéger nos frites du vinaigre que les Anglais mettent dessus.
Non, le pognon, il n'y aura aucune loi. Plus t'en ramènes, mieux c'est. qui viennent de n'importe où, plus ils ramènent de l'argent dans le pays, il n'y a pas de souci. Hein.
Alors des points de vue un petit peu différents, des angles de vue un petit peu différents, et là un angle de vue encore plus différent, avec Laurent Ferreira, qui est un homme du coin, qui est un ancien ouvrier, qui est responsable du Parti communiste sur ce département et qui est le premier adjoint d'une petite commune à côté de Bergerac.
Là, on se trouve à Sainte-Foy-la-Grande, qui est une ville limitrophe Gironde-Dordogne, qui est à 15 km de Bergerac.
Alors, à quoi est-ce qu'on pourrait voir ou mesurer l'un des impacts qu'a eu l'arrivée des Anglais dans la région ?
Mais le premier impact qu'on a pu voir, c'est effectivement d'abord, on n'a qu'à se promener rien que dans les rues de Sainte-Foy-la-Grande, et on voit la multiplication des agences immobilières qui présentent, y compris à la vente, pas le petit habitat, j'ai envie de dire populaire, mais plutôt... pour ceux qui peuvent avoir les moyens de se financer ça.
Alors bah, là, on se trouve à un carrefour entre la rue Louis Pasteur et la rue de la République. Je compte une de trois agences immobilières. On va se diriger vers l'une d'entre elles et on va regarder un petit peu ce qu'on y vend.
Ah, ben on peut lire quelques-unes, mais quand on regarde les photos, on a vite compris que c'est tout dans le même domaine. Premier manoir restauré dans un parc arboré avec cité, prix 750 000 euros. C'est la maison du pays restaurée avec dépendance sur 4 hectares, 520 000 euros. On peut prendre la maison de campagne avec belle vue dans le vignoble avec des photos, 385 000 euros.
Bon, si on prend le manoir restauré, il a l'air très beau, 750 000 euros, ça fait combien d'années de salaire d'un ouvrier ça ?
Bon, mais si on prend le SMIC aujourd'hui qui est à 1200 euros, on n'a qu'à faire la division, on va s'apercevoir qu'il va falloir quand même quelques années pour pouvoir le financer.
Peut-être même falloir qu'ils se mettent à plusieurs.
Oui, je pense. Oui.
Bon.
Alors sur la porte, English spoken, et if the door is locked, please go to the other office. C'est un anglais vraiment périgourdin.
Ça veut dire, si la porte est fermée, s'il vous plaît, dirigez-vous vers l'autre bureau à 30 mètres d'ici. Voilà.
Oui, là on a tout de suite, on voit vers qui il s'adresse, alors que c'est un gros constructeur local. Et là, pratiquement, quand on regarde les vitrines, les panneaux et la devanture, c'est tout en anglais.
De Périgourdins soumis à l'impôt sur les grandes fortunes a augmenté cette année de façon assez conséquente puisque la hausse est de 17,5% par rapport à 2006. C'est aussi plus que la moyenne nationale où l'augmentation n'est que de 16%. Pour être soumis à ce fameux ISF, il faut avoir un patrimoine imposable supérieur à 760 000 euros. Explication David Mal.
Le chiffre de Périgourdins soumis à l'ISF est en nette augmentation. C'est l'effet de la hausse conjointe de la bourse et de l'immobilier qui peut expliquer cette variation.
La Dordogne au fil de l'eau avec Périgord Gabart.
Je crois qu'il y a l'image effectivement première positive qu'on peut voir, qui effectivement fait que la population anglaise et britannique qui arrive ici représente une manne économique. Dans le même temps derrière, c'est depuis quelques années une explosion du prix du foncier, qu'il soit bâti ou non bâti, et les populations les plus fragilisées dans un département en plus qui a le triste record d'être avant-dernier au niveau des revenus, fait qu'aujourd'hui les plus fragilisés ont de la difficulté à accéder à la propriété. Et avec une autre conséquence, y compris pour les collectivités locales qui veulent faire des projets sur l'habitat, se retrouvent avec des sommes beaucoup plus en augmentation pour pouvoir acheter à la fois du terrain et à la fois dans la construction.
Vous nous dites que en Dordogne, c'est l'avant-dernier département en termes de revenus. C'est
oui.
Ça, moyen.
Oui, c'est avant-dernier en termes de revenus. Donc c'est pour ça aussi, quelque part, que... La population, une certaine population dans le département, regarde avec inquiétude aussi cette venue massive, et y compris cette explosion du foncier.
On a du mal à croire ce que vous nous dites, parce qu'aujourd'hui, une nouvelle est tombée à la radio expliquant que dans le Périgord, le nombre de personnes assujetties à l'ISF avait augmenté beaucoup plus vite que dans le reste de la France, notamment lié à l'immobilier. Vous seriez en train de nous dire que la flambée de l'immobilier profiterait à certains, mais pas à tous ?
Mais la flambée de l'immobilier, elle profite à certains, effectivement. Alors après, est-ce que ça durera dans le temps ? Parce qu'on voit bien dans certaines parties de certaines communes, y compris, ça devient aujourd'hui des grosses concentrations. Ça devient, y compris, ça peut devenir à terme, y compris, des groupes de pression, y compris dans l'intérieur des municipalités et autres. Donc, est-ce que ce climat-là, il restera pendant des années et des années ? Je crois qu'on peut mettre un point d'interrogation derrière.
Vous dites que la communauté britannique peut constituer des groupes de pression au sein de certaines municipalités ?
Oui, par rapport, on le voit avec l'aéroport, en même temps aujourd'hui de Bergerac. Alors que celui-ci avait une ligne sur Paris qui a été supprimée, aujourd'hui il n'y a plus que des lignes qui vont vers l'Angleterre. Des lignes aériennes financées à grands coups de fonds publics, avec y compris une pression énorme par la Chambre de commerce et d'industrie sur les collectivités locales pour aider au financement de cette ligne, autrement qui serait déficitaire. Donc c'est avec un regard aussi un peu agacé que les Bergeracois par moment et les élus regardent ces principes-là, parce qu'on va tirer en fait dans la poche des contribuables locaux pour financer ces lignes.
Sous prétexte que les Anglais, il faut les faire venir parce qu'ils font vivre l'économie locale.
C'est sous ce prétexte-là que la Chambre de commerce et d'industrie mène sa campagne et intervient auprès du Conseil général, auprès de la municipalité de Bergerac, et y compris des communes dans le secteur du Bergeracois.
Donc l'impact direct, il est... L'impact direct, il sera, en termes de bénéfices, il sera plus facilement senti par cet agent immobilier près duquel on se trouve en ce moment que par un ouvrier dans une usine du Bergerac, quoi.
Il est certain que c'est le...
Qui lui paiera pour l'aéroport, voilà. Aussi, quoi.
C'est qu'aujourd'hui, la grande majorité aujourd'hui des citoyens du Bergeracois, en fait, au travers de leurs impôts, sont en train de financer, y compris cette arrivée, où ils n'en ressentent pas automatiquement, directement, eux, quelque chose dans leur portefeuille.
Pourtant, vraiment, quand on pose des questions, la plupart des gens ont l'air de dire que les Anglais, c'est la même culture que nous. C'est pour ça qu'ils s'adaptent bien. Pourtant, c'est pas vraiment la même culture. Ils mettent du vinaigre sur leurs frites.
Ils mettent du vinaigre. Derrière ça, effectivement, on entend que c'est la culture européenne. Dans le même temps, c'est quand même une communauté à part qui est quand même pas intégrée et qui vit pas directement avec la communauté française. Même si depuis des années maintenant, des liens se créent là où ils habitent et autres. Mais bon, je me souviens, y compris au début de l'arrivée des Britanniques, c'était un cercle très fermé, y compris qui ne dépensait pas beaucoup dans l'économie locale, qui amenait beaucoup d'Angleterre et qui consommait ce qu'il avait amené.
Donc en fait, on a une communauté qui arrive, qui parle pas toujours la langue, dont on dit qu'elle a eu un apport sur l'économie, mais qui a un apport marginal, mais qui est bien intégrée. Et on a d'autres communautés qui parlent en général la langue, qui ne sont pas forcément immigrés, qui peuvent être de descendance immigrée, mais qu'on considère toujours comme des étrangers en France. Comment on explique ça ?
Mais certainement, ça s'explique, c'est que ce n'est pas automatiquement les mêmes classes sociales. Il y a effectivement toute une partie, y compris sur le Bergeracois, il y a plusieurs générations qui sont issues, effectivement, notamment des pays du Sud, qui est arrivé en France, qu'on a fait venir souvent, y compris pour travailler en France, notamment souvent des boulots qui leur étaient réservés, que les Français ne prenaient pas, notamment pendant les travaux publics, les travaux saisonniers, et autres. Aujourd'hui, cette population est toujours, alors qu'on est sur la troisième, des fois voire quatrième génération, pas considérée encore comme français, alors que souvent ils ont la nationalité française. Certainement aussi qu'ils ne sont pas considérés de la même façon par rapport à ce qu'ils amènent eux-mêmes directement dans l'économie locale.
En fait, ce que vous nous dites, c'est que les Anglais ne sont pas des Arabes comme les autres.
On peut le dire presque comme ça, mais effectivement, le regard n'est pas le même sur les Anglais, parce qu'il y a derrière de la manne financière qui arrive.
on s'apercevrait que le racisme serait aussi une affaire de classe sociale.
On pourrait presque le dire comme ça sur le Bergeracois, quand on regarde la réalité.
Alors on continue à regarder la réalité, on voit que tout ce qu'on vous dit de façon générale sur les raisons du rejet, de la xénophobie, c'est « ah oui, mais ils s'intègrent pas », il y a les différences culturelles, les incompatibilités culturelles, il y a les contentieux historiques, les Anglais ont occupé l'Aquitaine, on est ennemis héréditaires, ne l'oublions pas, sans parler de Fashoda et d'un tas d'autres moments de l'histoire, nous avons été plus que rivaux, nous avons été longtemps ennemis, et les différences culturelles, religieuses, etc. sont très très importantes. Voilà une définition du mot immigré que Gérard Noiriel analyse pour finir.
The invaders. Their purpose, to make it their world.
Pourtant, vraiment, quand on pose des questions, la plupart des gens ont l'air de dire que les Anglais, c'est la même culture que nous.
Immigrer, ça ne veut rien dire. Mais c'est d'ailleurs ce que montre votre reportage. Qu'est-ce que vous voulez comprendre à la question immigrer si vous n'associez pas immédiatement la position socio-professionnelle des gens? Rien. Puisque ce mot immigré, il s'écroule de lui-même. Puisque vous voyez bien. Si vous prenez le critère objectif qui est critère de la mobilité, le franchissement d'une frontière, la nationalité, la langue, le sentiment d'appartenance, enfin tous ces trucs-là, quand on les pose par rapport aux Anglais, c'est pas parce que ces gens-là ont une situation économique enviable qu'on va nous faire l'éternel discours sur le communautarisme dès que vous avez des individus qui vont parler en arabe ou qui vont être musulmans, etc. C'est ça surtout qui est choquant. C'est cette discrimination qui est faite, je dirais très souvent inconsciemment, mais qui est fondée, vous voyez, au fond sur ce que j'appelle peut-être un racisme de classe, vous voyez, c'est-à-dire des réflexes qui sont de l'ordre de la position sociale des gens. Les étrangers appartenant aux milieux sociaux les plus favorisés ne sont pas perçus comme des immigrés. Et c'est flagrant. Si vous voulez, les villes de France où il y a le plus d'étrangers aujourd'hui en France, c'est Neuilly-sur-Seine. Bon, les gens ne voient pas Neuilly-sur-Seine comme un repère d'immigrés, etc. Donc il y a une dimension sociale qui est fondamentale. Mais d'ailleurs, c'est très clairement noté par plusieurs de vos interlocuteurs qui voient très bien cette dimension sociale.
Et les Anglais en vacances, ont la peau blanche sous leurs épaisses pattes rousses. Leurs épouses sont vieux, elles ont l'air trop pâles, malins dans leurs lourdes jupes en laine peignée, et même leurs bas sont mats. Car les Anglais en vacances sont toujours gentils et polis, d'une voix distinguée, yeah, yeah, et toujours soprano. Entre leurs dents carillées par les bonbons, parle du gazon, du criquet et du temps. Ils se regardent, ils commandent le thé, mais ils se font une rugée. Et les Anglais en vacances conduisent maladroitement. Ils ont toujours peur des camions, des virages, des montagnes, des routes de France.
To discover Bergerac, think bad trip and the Dordogne.
Ah, sur France Bleu, Dordogne, on parle anglais comme vous pouvez l'entendre. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à tous, merci à Laurent Ferrara, Marie Méleuc, Laurent Surionnet, Louise Buffière, à lire le livre de José-Alain Fralon aux éditions Michalon, Au secours, les Anglais nous envahissent, et puis de Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France, que je vous recommande chaleureusement, aux éditions Fayard. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission de la Basse Utilité, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site non officiel de la Basse Utilité, la-ba.org. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Thomas Robin, c'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission. C'est Charlotte Perry qui attend vos messages au répondeur de la Basse J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis un merci à tous les AMG, auditeurs modestes et géniaux et autres, qui sont venus au festival du film Groslandais à Caen ce week-end, samedi soir et vendredi soir et samedi matin, où nous avons présenté une copie de travail de Chomsky et compagnie sur lequel nous travaillons actuellement et sur lequel vous pouvez tout savoir en allant sur laba.org. Réclame.